Lizzie présente Les disparus de la Purple Line de Dipa Anapara. Lu par Thomas Dormois et Julien Renon, avec la participation de Carole Franck.
Pour Divya Anapara et Param. Cette histoire vous sauvera la vie. Quand Maboul vivait encore, il était le boss de 18 ou 20 garçons qui travaillaient pour lui et sur lesquels il ne levait presque jamais la main. Chaque semaine, il leur donnait des barres chocolatées Five Stars ou des paquets de gems à se partager. Il les soustrayait aussi à la police et aux évangélistes de tout poil qui voulaient les sortir de la rue, aux hommes aux yeux avides qui les regardaient courir sur les voies pour ramasser des bouteilles en plastique au risque qu'un train les percute. Maboul ne disait rien si ces petits éboueurs ne lui apportaient que 5 bouteilles vides au lieu de 50, ou s'il les trouvait dans leurs plus beaux habits devant le cinéma, en train de faire la queue pour la première séance au lieu de travailler, alors qu'ils n'avaient de toute façon pas de quoi payer leur place. Mais, s'ils revenaient le nez rougi, bredouillant, leurs mots se mélangeant comme sang et eau, les pupilles rondes comme des lunes d'avoir sniffé du Tipex, il les punissait. Il écrasait une de ses Gold Flake Kings sur leurs poignets ou leurs épaules et disait que c'était gaspiller une bonne cigarette. Les garçons laissaient dans leur sillage une odeur âcre de chair brûlée qui dissipait les frissons doux et passagers procurés par la colle ou les solvants. Il leur mettait de force du plomb dans la cervelle, Maboul. Nous, on ne l'a jamais rencontré, car il habitait ce quartier bien avant notre époque. Mais ceux qui l'ont connu, comme le barbier qui rase les joues depuis des décennies et le fou qui se barbouille le torse de cendre et se prend pour un saint, en parlent encore. Ils disent que les garçons de Maboul ne se disputaient jamais pour savoir qui sauterait le premier dans un train en marche ou qui garderait la peluche ou la petite voiture à friction dénichée derrière une couchette. Maboul leur apprenait à être différents. Et de tous les enfants qui travaillaient dans chaque gare du pays, ils étaient ceux qui vivaient le plus longtemps. Mais un jour, Maboul est mort. Ces garçons savaient qu'ils n'avaient rien vu venir. Il était jeune et en bonne santé, et il avait promis de louer une camionnette pour les emmener voir le Taj avant l'arrivée de la mousson. Les gamins l'avaient pleuré des jours entiers. Arrosés de leurs larmes, le sol sec s'était couvert de mauvaises herbes. Après ça, il leur avait fallu travailler pour des hommes différents. Dans leur nouvelle vie, plus de barres chocolatées ni de films, rien que des mains brûlées par les rails qui étincelaient comme de l'or sous le soleil d'été sous 45 degrés dès 11 heures du matin. En hiver, la température chutait jusqu'à 1 ou 2 degrés et parfois, quand le brouillard se changeait en poussière blanche et granuleuse, la lame tranchante du métal glacé arrachait la peau de leurs doigts couverts d'ampoules. Tous les jours, après avoir fouillé les ordures, les garçons se lavaient la figure à la gare avec l'eau qui dégoulinait d'un tuyau percé et adressaient à Maboul une prière collective pour qu'ils viennent les sortir de là avant qu'un train ne les réduise en bouillie d'os ou qu'une courroie sifflant dans l'air ne leur brise le dos, leur interdisant à jamais de marcher. Au cours des mois qui avaient suivi sa disparition, 2 garçons étaient morts en courant après les wagons. Des rapaces avaient tournoyé au-dessus de leurs cadavres disloqués et des mouches embrassaient leurs lèvres bleu-noir. Pour ceux qui les employaient, faire ramasser et incinérer leurs corps était une perte d'argent. Les convois ne s'étaient pas arrêtés et les locomotives avaient continué à hurler tard dans la nuit. Un soir, peu après ses morts, 3 des garçons de Maboul avaient traversé la route qui séparait la gare d'un chaos d'échoppes et d'hôtels dont les toits étaient encombrés d'antennes relais rouges et blancs et de citernes noires. Des enseignes au néon clignotaient, délivrant leur message « Pure cuisine végétarienne » et « Vue sur la gare »« Incredible India » et « Confort familial ». Les garçons étaient allés inspecter le mur de briques avec une balustrade en fer sur laquelle Maboul mettait autrefois ses vêtements à sécher et sous laquelle il dormait la nuit venue, tous ses biens enfermés dans un sac qu'il serrait étroitement contre lui comme si c'était sa femme. Dans la lueur jaune-rose de l'enseigne « Hôtel Royal Pink », on discernait les petites divinités en argile qu'il avait disposées dans une niche creusée dans le mur. Ganesh et sa trompe enroulée sur le ventre, Hanuman soulevant une montagne d'une seule main, Krishna jouant de la flûte. À leurs pieds, des œillets d'Inde desséchés posés sur des cailloux. Les garçons s'étaient tapés la tête contre le mur en demandant à Maboul pourquoi il avait fallu qu'il meure. L'un d'eux avait murmuré son vrai nom, un secret connu d'eux seuls, et une ombre était passée dans la ruelle. Ils avaient cru à un chat ou une roussette, mais il y avait de l'électricité dans l'air, un goût métallique sur leur langue, puis un éclair de lumière couleur d'arc-en-ciel leur était apparu, si vite évanoui qu'ils l'avaient sans doute seulement imaginé. Ils étaient épuisés d'avoir ramassé des bouteilles, étourdis par la faim. Le lendemain, dans un train, en fouillant parmi les ordures qui jonchaient le sol, chacun des trois garçons avait trouvé, sous différentes couchettes, un billet de 50 roupies. Ils savaient que l'argent était un cadeau du fantôme de Maboul, car l'air frémissait de son haleine tiède parfumée aux Gold Flake Kings. Il était venu à eux parce qu'ils l'avaient appelé par son vrai nom. Les garçons s'étaient alors mis à lui laisser des cigarettes au pied de son mur et des bols en papier aluminium remplis de pois chiches épicés, relevés de jus de citron vert, d'oignons rouges et de coriandre fraîche. Ils avaient fait des blagues grossières à propos des odeurs et des bruits produits par Maboul l'après-midi, où il en avait d'un coup ingurgité une demi-livre, et son fantôme n'avait pas apprécié, car, après ça, ils avaient découvert des trous de cigarettes dans leurs chemises. Les garçons de Maboul sont maintenant éparpillés aux quatre coins de la ville. On dit que certains sont mariés et pères de famille. Aujourd'hui encore, pourtant, celui qui s'endort affamé avec le vrai nom de Maboul sur ses lèvres gercées peut, à son réveil, se voir offrir une crème glacée par un touriste blanc ou un paratha par une vieille femme. Ce n'est pas grand-chose. Mais Maboul n'était pas riche de son vivant. Et son fantôme n'est pas riche non plus. Le plus drôle avec Maboul, c'est qu'il avait été baptisé ainsi par ses garçons. Quand ils l'avaient rencontré, l'homme leur avait semblé coriace, mais à la vue d'un orteil amputé ou d'une cicatrice qui se tordait tel un poisson à l'agonie au dos de leur cuisse pour avoir été fouetté à coups de chaîne chauffée à blanc, son regard s'attendrissait. Les gamins avaient décidé qu'il fallait être Maboul pour avoir un peu de compassion dans ce monde pourri. Mais ils l'avaient d'abord appelé frère et les plus jeunes oncle, et c'est bien plus tard qu'ils s'étaient mis à dire « Maboul ! Regarde combien de bouteilles j'ai ramassées aujourd'hui !» Et il laissait faire. Il savait pourquoi il lui avait choisi ce nom. Des mois après être devenu Maboul, une nuit de printemps où il avait vidé plusieurs verres de bang au cannabis, il leur avait acheté du firni bien sucré dans des bols en terre cuite et leur avait chuchoté le nom reçu de ses parents. Il leur avait dit s'être sauvé de chez lui à 7 ans, parce que sa mère le battait quand il manquait l'école pour traîner avec les dragueurs de rue qui se mettaient à chanter d'une voix perçante dès qu'ils voyaient passer une fille. Au cours de ses premières semaines en ville, Maboul avait vécu dans la gare, mangeant les restes de nourriture que les passagers jetaient par les fenêtres des wagons, cachés sous les passerelles pour échapper à la police. Chacun des pas au-dessus de lui résonnait comme un coup sur la tête. Pendant un temps, il avait cru que ses parents viendraient le chercher, le gronderaient pour le punir de leur avoir fait peur, puis le ramèneraient à la maison. La nuit, il dormait d'un sommeil agité et entendait sa mère crier son nom. Mais ce n'était que le vent, le fracas d'un train ou une voix de femme monocorde annonçant un retard de 4 heures pour l'express nord-est en provenance de Shillong. Maboul avait bien songé à rentrer chez lui, mais il ne l'avait pas fait parce qu'il avait honte. Et parce que la ville transformait les garçons en hommes, qu'il en avait assez d'être un enfant et voulait être un homme. Maintenant que Maboul est un fantôme, il regrette de ne plus avoir 7 ans. C'est sans doute pour ça qu'il veut entendre son ancien nom. Il lui rappelle ses parents et le garçon qu'il était avant de sauter dans un train.